Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, nous sommes le 19 avril, samedi, le jour de notre voyage dans 7 jours d'événements sur la planète avec la rédaction. Nous allons partir pour l'Ukraine notamment, puis direction l'Afrique après le flash. Rendez-vous également avec vos messages. Nous sommes en compagnie de Claude Angéli, chroniqueur au Canard Enchaîné, après en avoir été 30 années durant son rédacteur en chef, et Stéphanie Meynier, romancière, tous deux auteurs d'un livre qui se lit comme un roman policier, Les micros du canard, aux éditions Les Arènes. Bonjour Stéphanie Meynier.
Bonjour Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour Claude Angéli.
Bonjour.
Alors je disais que ce livre se lisait comme un roman, mais ce n'est pas du tout un roman, Claude.
Non, tout est vrai, tout est vérifié, tout est dit. Et surtout, nous élargissons le problème à l'affaire des écoutes en général, en montrant et en prouvant que 4 présidents de la République ont été écoutés, je dirais Mitterrand, Giscard, Chirac, Sarkozy, et que, après avoir promis, s'ils étaient élus à l'Élysée, de supprimer les écoutes, eh bien, ils se sont transformés en écouteurs, en écoutant leurs opposants et en écoutant les journalistes comme il se doit.
Et nous verrons qu'en 1973, c'est le cœur du livre, des micros ont été posés dans les locaux du Canard Enchaîné. On verra pourquoi et on verra comment. Stéphanie, Claude, partons pour l'est de l'Ukraine. Tout de suite, ces derniers jours, nous avons appris le nom de villes, Mariupol, Zavliansk, Kramatorsk, où des groupes pro-russes se sont emparés de bâtiments de l'administration ou d'une mairie à Gorlivka, notamment. Reportage de Damien Simonard.
À l'intérieur du siège de la municipalité de Gorlivka, une vingtaine d'hommes et de femmes débattent avec véhémence pour savoir qui sera le nouveau chef de l'exécutif de cette ville de 250 000 habitants. L'ancien chef vient de présenter sa démission sous la pression des manifestants pro-russes. Ces derniers, parmi eux Sergueï, la cinquantaine, affirment chercher une solution pacifique.
Nous ne voulons pas de la guerre, que ce soit les habitants de Gorlivka ou ceux de Donetsk. Les gens ne sont armés que de barres de fer. Nous ne voulons pas la guerre.
À quelques rues de là, une centaine de jeunes hommes aux carrures imposantes ont pris d'assaut le siège de la police de Gorlivka, dont les fenêtres ont toutes été brisées. L'attaque aurait fait 3 blessés dans leur rang. Dans son uniforme militaire non identifié et sous sa cagoule, Andrei, qui surveille l'entrée du commissariat, répond volontiers à la presse pour faire preuve de sa bonne foi.
Nous sommes tous des citoyens de Gorlivka. Ici, il n'y a pas de soi-disant touristes, c'est-à-dire de provocateurs. Nous ne sommes pas russes. Nous voulons vivre dans notre Ukraine. Nous voulons vivre dans notre ville de Gorlivka.
Les assaillants, qui ne posséderaient pas d'armes à feu, veulent maintenant un référendum local sur la fédéralisation de l'Ukraine et espèrent que l'armée ukrainienne ne s'en prendra pas à eux pour les déloger.
Et nous reparlerons tout à l'heure de l'accord signé jeudi à Genève. Autre chose, avec cette fois en Afrique, en République démocratique du Congo, une tentative d'assassinat du directeur de l'immense parc des Virunga mardi. Emmanuel de Mérode a été grièvement blessé. Depuis des années, il se démène pour dénoncer toutes les dégradations de ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité. Alors à qui profite cette tentative de crime? Il faut savoir par exemple que ce site est très convoité par les compagnies pétrolières et notamment la compagnie britannique Soco. Écoutez l'avis d'un des administrateurs de la fondation Virunga, Xavier de Donner.
Je crois qu'il a sous-estimé les dangers qu'il courait. Mardi, il revenait d'avoir été déposé une information judiciaire sur les activités illégales des pétroliers dans le parc sur le bureau du procureur de la République. Alors je ne fais pas de lien de cause à effet. Je pense qu'il y a plusieurs pistes de gens qui pouvaient lui en vouloir au point de le tuer. Il entravait les activités potentielles des pétroliers, les activités des FDLR qui se finance essentiellement par la fabrication illégale de charbon de bois dans le parc. Il mettait des obstacles sur la route de groupes de Maïmaï qui pêchaient illégalement dans le lac Édouard. Et enfin, la semaine passée, il avait fait expulser quelques dizaines de personnes qui occupaient illégalement une île appartenant au parc et qui avait été vendue par des politiciens un peu scrupuleux qui n'avaient pas de droit de propriété à des habitants naïfs. Et donc, ce n'est évidemment pas en expulsant des gens qui se croient chez eux que l'on se fait des amis.
Propos recueillis par Christine Muraté.
Sept jours dans le monde.
Avant de retrouver le canard enchaîné et nos invités Claude Angeli et Stéphanie Meynier, parlons d'un autre fait d'actualité qui va aussi vous intéresser tous les deux. Le Washington Post et l'édition américaine du Guardian ont été récompensés lundi par le prix Pulitzer dans la catégorie du service public pour leur travail sur le scandale des écoutes de National Security Agency, NSA. Un prix a été décerné à chacun des quotidiens pour leurs articles écrits à partir des milliers de documents confidentiels recueillis par l'ancien consultant de la CIA et de la NSA, donc Edward Snowden, correspondant ce jour-là d'Anne-Marie Capomaccio.
Le jury du prix Pulitzer, en récompensant le Washington Post, choisit de placer l'ancien consultant de la NSA dans la catégorie des lanceurs d'alerte. Les révélations sur les pratiques de l'agence ont provoqué un scandale international. L'administration américaine, embarrassée, a failli se brouiller avec ses plus proches alliés. Les articles qui valent au quotidien de Washington sa distinction sont basés sur les milliers de documents subtilisés à la NSA par Edward Snowden. C'est une équipe de 28 journalistes qui a travaillé d'arrache-pied sur ce dossier explosif. C'est une reconnaissance de l'importance de notre mission pour le respect des droits constitutionnels de chaque citoyen américain, s'est réjoui le directeur de la rédaction du quotidien. Ce dernier ajoute que chaque mot a été pesé, que les commentaires de l'administration ont été sollicités à chaque étape et que toute information touchant à la sécurité nationale a été retenue. Cette récompense va relancer le débat sur une éventuelle amnistie pour Edward Snowden, considéré comme un héros par certains et comme un traître qui a mis en danger le pays par les autres.
Une semaine d'actualité, Edward Snowden, qui a demandé d'ailleurs jeudi à Vladimir Poutine s'il y avait des écoutes en Russie. Évidemment, Vladimir Poutine a dit non. Évidemment, il n'y a pas d'écoute en Russie. Nous allons continuer cette émission. Un mot sur ce prix Pulitzer, attribué donc à deux journaux, Guardian et Washington New York Times.
Nous nous sommes réjouis de l'attribution de ce prix à ces deux journaux. Et il faut en profiter pour saluer le courage d'Edward Snowden, le courage des lanceurs d'alerte. On peut aussi citer Bradley Manning, qui est en train de moisir dans une prison. Mais malheureusement, est-ce que ça changera beaucoup les choses? Je rappelle qu'en mai 2013, Obama a fait écouter une vingtaine de journalistes de l'Associated Press, dont leur ligne privée. Donc malheureusement, le tout à l'écoute continue. Et on peut aussi en profiter pour rappeler que si Snowden a eu du courage, ça n'a pas été le cas de François Hollande ni du gouvernement socialiste qui avait refusé le survol du territoire à l'avion du président Morales au prétexte que peut-être Snowden s'y cachait.
Alors vous rappelez dans le livre, Claude, Stéphanie, que Edward Snowden, d'ailleurs, puisque vous parlez de ces masses de documents, ne s'est pas adressé spontanément à des journalistes.
Il reprochait aux journalistes américains de ne pas être aussi virulents qu'auparavant. Et donc, il s'est adressé à une jeune femme réalisatrice de films, je crois, et à un avocat qui est aussi capable d'écrire, pour que eux utilisent ces documents. Ce qu'ils ont fait, à leur mérite et au péril parfois de leur métier ou de leur vie, sait-on jamais. Ils ont contribué à faire connaître ce que Snowden avait dans sa besace. Et c'est remarquable que le prix Pulitzer récompense ces deux journaux.
Stéphanie Meynier.
Ce qui pose quand même un problème sur le rôle du journaliste aujourd'hui, qu'un lanceur d'alerte comme Snowden n'ait pas eu assez confiance pour aller voir des gens directement du Washington Post, ça remet quand même un petit peu en cause les rapports des journalistes avec les gens au pouvoir et aussi avec ceux qui pourraient les informer. Et je pense qu'il serait bon que chacun dans la profession s'interroge sur ce point.
Alors, que s'est-il passé, Claude Angeli? Là, ce sont des souvenirs qui sont encore dans votre mémoire et que vous avez couché sur ce livre avec Stéphanie Meynier, ce 3 décembre 1973.
Bien, par hasard, un journaliste et dessinateur voit de la lumière.
André Scarro.
Ce sont des locaux qui sont en travaux, vides, ils montent Et il découvre des gens qui sont en train de soulever les lattes de parquet, etc., etc. Il comprend, il fout le camp, et il nous prévient. On y va, et on découvre des fils qui traînent sous les lattes de parquet, un trou dans le mur où ma main s'enfonce dans le plâtre, et on comprend que c'est une opération policière et que c'est une pose de micro. Voilà.
Et ça, vous le comprenez tout de suite?
Oui. Et on fait venir des journalistes, de l'Humanité au Figaro, en passant par l'AFP, à minuit environ. Et la chance de notre vie, c'est de découvrir en quelques jours que c'est, un, la DST, c'est-à-dire le service de contre-espionnage, et deux, d'avoir les noms d'une partie des personnages qui étaient là au travail.
Alors vous avez mené l'enquête pendant des mois, des semaines,
après,
et
oui.
Des mois. Tout ça est dans le livre. C'est un véritable. Les circonstances de cette enquête ressemblent parfois à des épisodes que l'on voit au cinéma ou dans les romans policiers. Je reprends ma comparaison. Et écoute, parce qu'il y avait à l'époque un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Raymond Marcellin, d'un genre un peu particulier, tout à fait paranoïaque.
Il n'y avait pas que lui. Il y avait le président Pompidou. Il y avait Raymond Marcellin. Il y avait Robert Gallet, ministre des Armées, parce qu'à l'époque on n'appelait pas ça ministre de la Défense, tous étaient complètement paranoïaques. C'est-à-dire que la succession d'informations et de documents qui paraissaient dans le canard enchaîné les avait amenés à ne plus comprendre rien à rien, c'est-à-dire que l'appareil d'État fuitait.
Avec la crainte, Claude Angély, de voir ressurgir mai 68.
Oui,
mai 68.
Mais ça, c'était dans leurs neurones. Ils appelaient ça, comme disait Marcellin, si nous n'abattons pas les révolutionnaires, nous disparaîtrons. Robert Gallet disait, en cas de risque grave, c'est l'armée qui est le dernier recours.
Ah oui.
Non mais enfin, on n'imagine pas, alors qu'ils avaient...
En 1963.
Ils avaient une assemblée ultra-majoritaire, ils avaient une presse qui était en gros assez complaisante, et il y avait un volatile canard qui les emmerdait un peu, quoi. Bon, c'est stupide.
Stéphanie,
il faut rappeler qu'on n'est quand même que 5 ans après mai 68. Ils ont encore la hantise et les souvenirs de ces événements. Et c'est le début du journalisme d'investigation au Canard enchaîné. C'est d'ailleurs pour ça que Jean Clémentin, le rédacteur en chef de l'époque, fait venir Claude Angély au journal. Et des affaires sortent presque toutes les semaines. La feuille d'impôt de Chaban, Château Chirac, le fameux château de Bitti, des documents sur le SAC, des documents confidentiels défense. Et on parle à l'époque, dans les cercles du pouvoir, de terrorisme journalistique.
Voulu déstabiliser la Ve République, le danger.
Oui, mais c'était un élément subversif d'après Alexandre Sanguinetti, qui comparait le canard enchaîné à l'entreprise menée par l'OAS ou par les gauchistes.
Ni plus, ni moins.
Une semaine d'actualité.
Claude, Stéphanie, nous allons repartir pour l'est de l'Ukraine, en proie donc au soulèvement des habitants pro-russes. Cette fois, nous allons nous rendre dans la ville de Slaviansk, reportage d'Anastasia Becchio et de Boris Vichit.
Lui, c'est un gentil soldat, dit une jeune femme poussant son garçonnet blond dans les bras d'un milicien pour une photo souvenir. L'enfant se laisse faire, mais semble impressionné par l'attirail du grand gaillard. Cagoule noire, kalachnikov en bandoulière et lance-roquette dans le dos. L'équipement et l'uniforme vert sans signe distinctif est le même que celui porté par les miliciens pro-russes de Crimée. C'est d'ailleurs de là que vient cet homme posté devant l'hôtel de ville.
Le peuple a appelé à l'aide et c'est pourquoi nous sommes arrivés.
Vous êtes des héros. Des centaines d'habitants de Slaviansk viennent féliciter ces mystérieux hommes verts armés et photographier ces blindés abandonnés un peu plus tôt par les soldats ukrainiens sur lesquels ont été plantés des drapeaux russes.
Quand on a entendu le bruit des chars, on a d'abord eu peur. Mais quand on a vu le drapeau russe, on a été soulagé. Parce qu'on sent que ces gens sont plus proches de nous que les militaires ukrainiens. Ces gens-là ne nous veulent pas de mal, alors que les autres, on en a peur.
Les autres, pour Natalia, c'est l'armée ukrainienne et surtout le gouvernement de Kiev, qui refuse toujours l'idée d'un référendum d'autodétermination demandé par la région du Donbass, qui semble de plus en plus lui échapper.
À la surprise générale, ukrainiens et russes ont trouvé un accord jeudi lors de négociations à Genève, mais il faut être prudent, comme nous l'a dit notre envoyé spécial, Daniel Valo.
Désarmement des milices, évacuation des places et des bâtiments occupés illégalement. Pour mener à bien ces deux mesures, les autorités ukrainiennes seront épaulées par la mission d'observateurs de l'OSCE. Et cela avec le soutien des Américains, des Européens, mais aussi de Moscou. C'est en tout cas ce qu'affirmait hier Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.
Et nous appelons cette mission à mener un rôle leader pour aider les Ukrainiens à mettre en œuvre toutes ces mesures. Et bien sûr que la Russie, les États-Unis, l'Union européenne participent à cette mission de l'OSCE. Nous allons soutenir le travail de cette mission.
Du côté des États-Unis, on se montre prudent et même sceptique quant aux intentions de la Russie. En témoigne la petite phrase de John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, à l'issue de ces pourparlers.
J'ai dit clairement à M. Lavrov, faute de progrès immédiat, nous n'aurons pas d'autre choix que d'appliquer de nouvelles sanctions à la Russie.
Pour les signataires de la déclaration de Genève, les trois jours à venir seront cruciaux. On verra très vite, estime pour sa part le ministre ukrainien des Affaires étrangères, si la Russie a réellement l'intention de jouer la carte de l'apaisement.
L'actualité internationale, c'est aussi le naufrage d'un ferry en Corée du Sud. Il pourrait y avoir plusieurs centaines de victimes et la disparition, bien sûr, d'un monument, comme on dit, de la littérature mondiale, Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de littérature, dont il faut lire tous les romans et notamment 100 ans de solitude. Stéphanie, vous êtes d'accord avec moi? Je sais que vous aimez la littérature.
Absolument, j'ai d'excellents souvenirs de lecture de Gabriel Garcia Marquez, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que 100 ans de solitude. L'amour, il y a l'amour au temps du choléra. Et il y a aussi, le titre m'échappe, mais cette biographie de Simon Bolivar, un livre très court qui est absolument fantastique.
Claude Angéli, vous signez cette semaine, comme chaque semaine, un papier qui est consacré à ce qu'on appelle la politique étrangère, les relations internationales. Vous parlez notamment beaucoup de l'Afrique en général. Vous suivez la situation des Français au Mali et en Centrafrique.
On y est là-bas avec des soldats.
On va en reparler tout à l'heure. Mais là, vous signez un papier qui est consacré à l'Ukraine avec ce titre, le poker, très canard, hein, le poker menteur ukrainien d'Obama et Poutine. Ils cachent leurs cartes sans prendre d'autres risques que celui d'assister à un début de guerre civile. Vous êtes sceptique quant à un éventuel accord?
Non, je suis sceptique sur leur comportement. C'est-à-dire, personne ne veut mourir pour Kiev.
Oui.
Il est très clair, et même dans les médias, on a du mal à l'écrire, que Obama ne veut pas de guerre conventionnelle. Il ne veut plus de guerre conventionnelle pour les États-Unis. Après l'Afghanistan et l'Irak, il a compris la leçon.
Il désengage.
Voilà, il se désengage. Donc il peut y avoir des affaires des drones qui vont tuer des gens, il peut y avoir des forces spéciales qui vont faire des actions clandestines, il peut y avoir la cyberguerre, il peut y avoir des tas de choses, l'aide militaire à des armées en constitution, mais pas de guerre conventionnelle. Donc Poutine le sait. Que fait-il? Ben, il profite de la situation. Alors on le menace de sanctions, mais on s'aperçoit que les Européens sont pas très chauds pour prendre des sanctions très importantes. Et on s'aperçoit aussi que Poutine, il a l'arme du gaz qui alimente une grande partie de l'Europe. Et donc, c'est un poker menteur dans la mesure où ils savent très bien quelles sont les cartes de l'autre et ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout, ce qui est heureux d'ailleurs.
Bien sûr.
Ce qui est heureux, mais avec le risque de guerre civile. On en a vu quelques prémices, des petites choses et tout, mais on a vu aussi des soldats ukrainiens qui passait un peu de l'autre côté, des policiers qui, dans l'est de l'Ukraine, n'étaient pas très chauds pour réprimer les manifestants, et une partie quand même des habitants de l'est de l'Ukraine qui, eux, ne sont pas pro-russes tout en étant des Slaves comme tout le monde. Alors, ce qui s'est passé jeudi, c'est un bon point.
À la surprise générale, hein, parce que le pessimisme était partagé par tout le monde.
La surprise générale, ouais. Et la mienne aussi. Ouais. Je veux dire, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que les éléments radicaux du côté des miliciens ukrainiens russophones, ils n'ont pas l'air d'avoir envie de dégager.
À suivre. Stéphanie Meynier, Claude Angéli, on se retrouve dans 3 minutes après un point sur l'actualité de ces dernières heures où il sera sans doute question de l'Ukraine, de l'Algérie et d'autres pays. À tout de suite.